BW. Droits et libertés.
Premier volet cette semaine d'un entretien en deux parties avec Koumout Aimech. Cet Ivoirien a quitté les violences dans son pays en 2002 et gagné l'Europe dans la clandestinité. Ce qu'il a vécu en route l'a tellement choqué qu'il a décidé de refaire le voyage quelques années plus tard avec une caméra, cette fois pour témoigner. Le résultat est un film intitulé « Revenir » que Koumout Aimech a co-réalisé avec l'Australien David Fideli. Au micro Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Koumout Aimech, vous avez décidé, 10 ans après avoir réussi à arriver en Europe par les voies clandestines, de refaire ce voyage avec une caméra en main. Pourquoi ?
D'abord, l'idée n'est pas après 10 ans. L'idée, c'est plutôt depuis les premiers moments, quand je traversais le désert à pied, que j'ai eu tout de suite l'idée d'avoir une caméra pour un jour être en mesure de publier cette réalité.
Parce qu'il y a quelque chose qui ressort dans le film, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, votre pays, vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend sur cette route-là. Jamais vous n'avez entendu parler, alors c'était avant les grandes vagues de ces dernières années, mais jamais vous n'avez envisagé tous les dangers auxquels vous alliez vous exposer.
Je n'avais pas du tout envisagé, je n'avais même pas une petite connaissance de la route. Ça a été franchement brusque, pas du tout préparé.
Et vous aviez 5 000 francs CFA en poche ?
Il y avait 5 000 francs CFA en poche quand je me suis retrouvé à la frontière.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous viviez en Côte d'Ivoire ?
Bon, tout d'abord, j'étais en année de licence, j'étais étudiant, j'étais en informatique, voilà. Et deuxième chose, j'étais engagé politiquement auprès d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Et en 2002, il y a eu la guerre qui a éclaté, et c'était un conflit ethnico-politique. Et voilà, en tant qu'activiste, en tant que personne engagée pour un parti politique, on était tout de suite bien connu pour tout ce qu'on faisait. Donc le contrôle était échappé à l'État lui-même, donc il fallait quitter. Il arrivait un moment où on se sentit obligé de partir. Franchement, c'est une situation extrêmement difficile.
Et vous dites qu'à l'époque, les seuls contacts que vous aviez avec le thème même des réfugiés, c'était les Libériens qui venaient en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, c'était des gens avec qui vous n'aviez pas de contact particulier. C'était quelque chose d'extrêmement étranger à votre vie quotidienne.
Oui, et tout à fait. Hein. C'était pas quelque chose d'ordinaire. Pour moi, c'est quelque chose qui sortait un peu de la vie commune, de ce qu'on voyait quand on avait l'arrivée massive des Libériens en Côte d'Ivoire. Nos parents nous avaient tout de suite sensibilisés à leur cause. Ils étaient tout de suite vus comme des personnes qu'il faut vraiment accueillir, qui ont vraiment traversé des graves difficultés. Et maintenant, ils s'imaginaient un jour qu'on sera dans la même situation un jour. C'était vraiment inimaginable, quoi.
Donc ensuite, vous entamez votre périple, donc vous passez au Ghana, puis Togo, Bénin. Et c'est là, je crois, que pour la première fois, on vous parle de la possibilité d'aller en Europe.
Quand on se retrouve donc, de l'autre côté, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui va donc se passer par la suite ? L'idée, c'est plutôt s'éloigner. C'est vrai que les nuits sont très dures parce que oui, il y a tout un cauchemar, il y a tout un réflexe qui revient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, quand je me suis retrouvé donc, au Bénin, comme on a dit, tout de suite, l'idée était aussi de pouvoir reprendre donc, les études. C'était très difficile parce que je n'avais pas de diplôme. Mes diplômes n'étaient pas avec moi. C'était très, très compliqué d'avoir accès à tout ce genre de choses. L'idée donc, m'est venue de partir au Maroc. Parce que déjà au début, en Côte d'Ivoire, quand le groupe était un peu ciblé avec tous les enlèvements, des personnes qui disparaissaient, de ceci, il y a des amis qui avaient déjà commencé à parler de cela. Donc de quitter, donc de partir. Et donc on avait même discuté une fois comme ça de la possibilité donc, d'aller au Maroc. Et donc, pour moi, aller au Maroc, c'était l'option la plus consolable, dans la mesure où tu fuis une crise et les élections au Bénin étaient encore annoncées. Les crises en Afrique, c'est dû à des élections présidentielles. Du coup, le Maroc, en tant que royaume, on s'est dit il y a toute une paix, il y a toute une stabilité, il n'y a pas d'élection présidentielle qui va avoir lieu. Je me suis dit que oui, j'ai maintenant la possibilité donc, de prendre l'avion pour voler au Maroc. Malheureusement, l'argent n'était pas suffisant. Il fallait donc trouver autre moyen. Et c'est comme ça, un compagnon de Niger, qui était devenu un ami à moi, m'a dit, voilà, le billet, il est encore moins cher.
Depuis Niamey.
Ouais, depuis Niamey, pour le Maroc, le billet, c'est beaucoup moins cher qu'ici. Il dit, ah bon, ok, bon. Et du coup, j'ai vraiment cru en ce qu'il m'avait dit. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment conduit jusqu'à Niamey.
Et on est en quelle année là?
On est en 2005, hein. On est en 2005, là. Et donc, du coup, à Niamey, c'est toute une. On découvre que les informations n'étaient pas correctes et que les billets sont les mêmes prix. Et c'est à partir de là que, d'abord, tous ces pays, je n'avais pas de connaissances. Il fallait trouver des endroits, dire à des gens, ah oui, je suis arrivé, je n'ai pas où dormir, je n'ai pas où aller. C'est à partir de Niamey que je suis informé que les gens traversent, ils vont jusqu'à en Algérie, et l'Algérie, on pouvait arriver au Maroc par la voie routière. Le problème, c'est qu'on n'imagine pas ce qui est sur la route.
Quand vous êtes à Niamey, vous vous mettez en route pour Agadez, qui est un des points de départ ou de poursuite du voyage pour aller en Algérie.
C'est ça.
Et alors?
C'est d'abord même cette nouvelle réalité, cette nouvelle découverte du Sahara, déjà depuis les villes comme la ville de Tawa, de Koni jusqu'à Tawa, avant d'arriver à Agadez. On se rend compte qu'on n'est plus vraiment chez nous. Parce que déjà, la végétation change totalement. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et je n'avais jamais pensé à ce genre de choses. Peut-être dans les livres de géographie, d'histoire, on a vu un peu le Sahara, mais vraiment arriver jusqu'à voir ça comme ça, c'était vraiment impressionnant. Le mode de vie, les constructions avec des pailles, avec de la terre, ça changeait complètement. La façon dont je dois me comporter, ce que je dois porter, porter des turbans, donc des sortes de foulards pour se protéger contre le vent, contre le sable. Donc vraiment, la vie changeait totalement. Et quand je suis arrivé, j'étais vraiment surpris de voir beaucoup de jeunes gens du Sénégal, du Cameroun qui étaient là, des gens qui vendaient de l'eau juste pour avoir un peu d'argent. C'est comme un nouveau monde qui s'était ouvert.
Et sur la route, comment ça s'est passé, sur la route de l'Algérie?
Il y a des faux policiers qui viennent juste pour racketter les immigrés. Il y a beaucoup d'escroqueries, franchement, qui sévit là. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux passeurs.
Ça veut dire qu'ils extorquent comme simplement l'argent et
Ils
après ils laissent tomber les biens.
laissent tomber les immigrés. Des gens qui font croire à des immigrés qu'ils peuvent les faire traverser jusqu'en Europe à partir de Agadez, qu'il faut juste payer l'argent, il faut payer les 1 million de CFA ici, et te faire voyager, et tu n'as plus rien à payer jusqu'à ce que tu arrives en Europe. Et beaucoup d'immigrés sont victimes de ça déjà. Et quand ils arrivent à ces frontières, dans ce moment, parfois on leur confisque leurs documents, parfois on leur confisque leur argent, ils sont complètement perdus. Il est obligé de rester encore des mois en train de vendre de l'eau. Et même pour certaines filles, c'est compliqué. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution que de chercher à se faire attirer les jeunes gens autour d'elles, quoi.
Oui, celles qui subissent pas des viols sont parfois contraintes
Oui,
à la
contraintes,
prostitution.
voilà, elles sont souvent vraiment contraintes à la prostitution. Et ça, j'étais choqué de voir ça. Tu vis des trucs vraiment incroyables. C'était très compliqué de voir ça avant d'arriver en Algérie. Et en plus, c'est là que tu te rends compte que ton document de ton pays n'est pas valide. Parce qu'il te faut un visa, il fallait avoir un passeport malien pour pouvoir franchir la frontière légalement et puis avoir un cachet d'entrée. Avant, les immigrés pouvaient aller sans papier jusqu'à la frontière avec l'Algérie ou avec la Libye. Même à Agadez, ils ne peuvent plus. Et en plus, il y a beaucoup de refoulements. Les autorités du Niger, ils pètent les plombs à des moments, ils ramassent tous les immigrés et puis les refoulent, quoi. On se rend compte bien que l'Europe a vraiment réussi à mettre ses frontières entre les pays africains. Le symbole européen, on voit un peu partout au Niger. Et je suis en train de discuter avec des policiers qui me disent non, mais vous pensez que ça va être comme avant et maintenant, ça a changé, quoi.
Et dans le film, vous racontez aussi comment vous vous êtes fait escroquer par les forces de sécurité nigériennes. Et au Bénin aussi, vous avez eu des problèmes avec la police, c'est ça?
Bon, je peux pas appeler ça escroquer parce que dans la législation, comme ils le disent, je suis immigrant illégal avec un document européen. J'arrive, ils se disent que non, j'ai pas eu le droit de. Donc, il me fallait donc le visa.
Oui, ça vous empêche de passer, mais ça ne vous oblige pas à payer
Et
de
ils disent
l'argent
que
et des sommes énormes
ils disent
aux
que
fonctionnaires.
légalement, il faut payer dans la loi quand quelqu'un il est migrant illégal sur un territoire. Il y a toute une procédure administrative, il y a toute une amende à payer. Ça, c'est pas les policiers eux-mêmes, c'est pas le monsieur en costume bien tenu, mais c'est des gens que tu connais pas forcément leur identité qui t'approchent et te disent, ah, si tu penses que tu veux t'en sortir, ah, moi je pense que tu peux faire comme ça.
Mais ces intermédiaires, là, ils entretiennent un système de corruption qui n'est
Il
pas
y avait même
officiel.
un monsieur, ouais, qui s'est fait passer pour un avocat, quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui est là pour défendre le droit des prisonniers. Tu ne réfléchis pas trop, est-ce qu'il est légalement là ou bien c'est qu'on te donne comme conseil. Parce que parfois, tu es en prison, on te met avec
Oui,
les
vous aviez
prisonniers.
besoin d'eux.
Voilà, tu as vraiment un grand besoin.
Mais est-ce que ça, c'est pas une grande douleur aussi, comme en tant qu'Ivoirien, de constater que finalement, les premières misères que vous avez vécues, les premières violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, vous ont été infligées par des Africains de la sous-région,
Oui,
qui profitent aussi de ce système.
mais ça n'a même pas commencé là. Déjà, j'ai eu beaucoup de difficultés d'abord à retourner en Afrique. Ça, c'est déjà une des, ça a été le plus, ça a été d'abord le premier choc. Quand j'ai devoir demander des visas pour aller au Ghana, visa pour aller en Afrique, au Sénégal, tout ça, que je n'ai même pas eu ces visas.
Parce que vous aviez en
Parce
France un
que,
statut de réfugié.
voilà. Donc déjà, le statut de réfugié qui est mondialement reconnu, et tous ces pays ont donc, disons, donc ratifié toutes ces conventions. Mais qui refuse d'accorder un visa à ce dernier, quelque part, c'est vraiment choquant.
C'est la fin de ce magazine. Grand merci à Kumut Aimech qu'on retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de notre entretien. Vous pourrez également entendre le co-réalisateur du film revenir dans le deuxième volet, David Fidili. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même endroit, même heure.